Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ok, donc l'émission s'appelle « Regard d'ailleurs ». Regard d'ailleurs, c'est cette envie d'ouvrir, d'élargir son regard sur soi, d'élargir son regard sur le monde à travers des parcours de vie, à travers des expériences. Donc j'aime bien, dans mes déplacements, donner la parole à des voyageurs, des réalisateurs, des écrivains, des danseurs, des artistes, donc tous ceux qui sont en lien avec le mouvement et tous ceux qui font aussi le choix de remettre du sens et de la cohérence dans leur vie. Donc regarde ailleurs, c'est peut-être aussi l'idée de, à travers ces échanges et ces rencontres, de pouvoir inspirer toi, auditeur, qui tombe sur cette émission, sur ce podcast. Aujourd'hui, on va prendre le temps de rencontrer Cindy. Alors Cindy, je sais pas encore grand chose de toi, mais pour faire un peu du teasing à celui qui nous écoute, tu es nomade, tu voyages quasiment non-stop, tu te mets sur les routes à l'écoute de ton cœur, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, dès que tu te sens appelé par quelque chose, t'y vas, et tu apparais ici et là avec un sourire incroyable, des yeux pétillants, qui incarnent la vie et le mouvement. Donc Cindy, c'est quand même très particulier ta réalité, je vais peut-être te demander dans un premier temps de te présenter, toi, enfant, petite fille, est-ce que tu incarnais déjà cette énergie que je ressens et ce mouvement que je vois en toi ?
J'ai été dès l'enfance très touchée par le mouvement. Je l'ai rattaché au fait que mes parents étaient magiciens et que d'emblée, il y avait un rapport aux tournées. Et très, très vite, mes parents m'ont emmenée avec eux lors des spectacles. Ils avaient un numéro d'oiseaux et de feu. Alors je pourrais dire que ça part de là. Pour autant, j'ai l'impression que j'ai cette nature qui est liée à la foi aussi. Le mouvement, j'ai su il y a peu de temps que c'était aussi lié à la manière dont on avait été conçu dans une formation que j'avais suivie en conscience physiologique sur tout ce qui a trait à la périnatalité, tout ce qu'on porte en nous depuis la grossesse de nos mamans. Tu parlais de suivre le cœur, mettre du sens. Ça a été assez rapide, cette quête de sens. Je me souviens que à 16 ans, ma mère nous a emmenés voir un psychogénéalogiste et ça a été pour moi la révélation. Ça a été en lien avec mon histoire personnelle et aussi en termes de soif, de découverte de l'humain, de l'autre, de pourquoi tel choix de métier, pourquoi tel choix de partenaire, les schémas de répétition, les secrets de famille. Ça a été vraiment le point de départ de cette mise en mouvement. Et puis très vite, j'ai fait des études liées à la psychologie, puis à la Sorbonne, à l'esthétique du cinéma, l'analyse de films. Et très vite, j'ai fait partie de jury sur des festivals de cinéma qui m'amenaient à partir. Et je ne me qualifiais pas de nomade. C'est vraiment depuis quelques années, on m'a laissé entendre que, avec une vingtaine de villes par mois, on pouvait considérer que j'étais nomade. Alors on me demande parfois si j'ai un camion, je dis que je n'ai pas le permis, que j'ai passé à 19 ans, donc je ne me déplace pas avec un camion. C'est une autre forme de nomadisme qui me touche beaucoup aussi.
On parlera du nomade un petit peu plus tard dans l'émission, mais c'est quelque chose d'assez fascinant. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens fantasment aussi ces modes de vie. Hein. Quand on pense nomade, souvent on pense aux peuples, que ce soit en Mongolie ou que ce soit les peuples premiers, racines, qui se déplacent au gré des saisons, au gré des mouvements migratoires des animaux. Après est arrivé le digital nomade. Enfin, il y a plein de formes de nomadisme, mais quand même, ce mot-là renvoie à la liberté, je trouve. Et j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus tard, hein, ce que c'est que pour toi être nomade. Mais je reviens sur ton enfance qui a l'air d'être assez rigolote quand même. Tu as dit j'ai fait pas mal de tournées avec des parents magiciens. Je veux bien que tu reviennes un petit peu sur ça, parce que c'est quand même une enfance particulière que de voyager avec ses parents en offrant de la magie. C'est aussi quelque chose qui fait rêver et qui fascine.
Alors oui, ça a été en fait ma mère était suivie par elle a suivi des cours de magie avec mon père qui était donc magicien. Elle avait donc 13 ans lorsqu'elle a commencé à travailler à ses côtés et elle m'a eu à 16 ans, donc assez tôt. Je dirais qu'il y a eu un rapport au magique et au tragique en même temps, quête de romanesque très forte par la suite, puisque ça a été une enfance qui était placée sous le signe de l'intensité. à la fois un rapport à la magie, à la beauté aussi du spectacle, mais aussi à l'illusion, puisque mon père avait des addictions, pour être clair, donc des changements d'état. Et moi, je crois que ça a été aussi le point de départ de cette quête de merveilleux qui ne m'a pas lâchée ensuite, bien que j'ai fait un chemin de thérapie pour me libérer du magique et du tragique et accepter les qualités du vivant beaucoup plus modestes, simples. Mais j'ai eu toutes ces années, donc avec une grande place liée au cinéma et au spectacle dans ma vie, qui est moindre aujourd'hui, vraiment cette envie que ce soit beau, cette envie de poésie, de magie, de beauté, parfois pour mettre de la beauté là où ça avait pu être aussi douloureux, puisqu'il n'y avait pas que les tournées, il y avait aussi des séjours pour lui à l'hôpital, et je crois que ça a vraiment coloré la suite. J'ai cherché profondément la beauté chez l'autre, j'ai vu beaucoup le beau chez chacun, chacune, et il y avait cette quête de romanesque, je dirais, qui était là très très présente. Donc c'était une enfance assez particulière qui m'a marquée au fer rouge. J'ai eu une quête de sens immense très tôt, parce que quand il y a parfois la maladie dans une famille, eh bien on a besoin de comprendre. Et donc très tôt, l'attrait pour la psychanalyse, les colloques psychanalytiques, sur la question de, par exemple, l'accès au bonheur après une expérience traumatique, ou les questions autour de la théorie de l'attachement, John Bowlby, qui avait été repris par Boris Cyrulnik, qui m'ont toujours beaucoup touchée. Pour moi, tout se joue très tôt, mais avec cette possibilité de se transformer via un chemin spirituel et thérapeutique. Et j'en suis quand même, je dirais, la preuve, puisque je viens de finir un cycle lié à un type de thérapie qui concerne le corps également. C'est mettre de la conscience là où ça a été parfois flou ou parfois bloqué. Et je sens qu'il y a vraiment des choses qui ont bougé. Alors je m'étais demandé si ça allait jouer sur le fait que j'allais être encore en mouvement ou non. Donc pour le moment, je suis l'appel de mon âme. Donc ce mouvement n'est pas seulement lié au début de vie, c'est aussi l'appel profond de qui je suis en termes d'âme, quoi.
Mais ce mouvement est choisi ou subi, ou les deux? Comment est-ce que tu le gères, cette manière d'être systématiquement en mouvement depuis des années?
Alors je dirais qu'il y a un peu des deux. Là je sens que c'est un vrai choix. Pour autant, j'apprends à accepter les périodes de repos. Moi ça a été difficile, j'avais en fait l'urgence de vie avec ce père donc, qui est décédé là, le 25 décembre. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est déposé en moi, comme si j'étais capable maintenant de m'arrêter. Pour autant, j'ai envie de ce mouvement-là. Avant ça, il y avait une urgence liée à l'urgence de vie, c'est-à-dire que ce papa voulait mourir souvent quand j'étais enfant. Et moi, j'ai très vite eu conscience de la finitude. Donc le rapport au vivant avec tout le temps cette peur que l'autre disparaisse, que la conscience aussi de notre condition humaine, avec pour moi, ce que j'avais en tête, c'était mais l'amour est maintenant, la guérison en lien avec l'âme est maintenant, on est de passage sur cette terre, j'avais cette croyance-là, pour se transformer, guérir la guérison des passés, celle de nos aïeux, pour que quand on partira d'ici, c'est ce que j'ai appris en accompagnement d'âme, on puisse être le plus léger possible. Et j'aime beaucoup une phrase qu'avait reprise Christiane Singer, c'est « Ne laisse aucune trace de ta souffrance sur cette terre ». Et j'ai souvent eu ça en fil rouge. C'est vraiment ce qui... parfois, on me demande s'il y a une cohérence dans tout ce que je vis, ce que je fais. Je dirais que ce qui rassemble le tout, c'est cette quête de sens et aussi l'idée de la guérison des passés. Et comment retrouver finalement nos qualités initiales, à savoir l'amour, la joie, la tendresse, qui sont là données d'emblée. Quand on arrive, quand notre âme en tout cas s'incarne sur cette terre.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Je vraiment l'impression qu'il y a, pour symboliser ou schématiser, deux types de personnes, celles qui vont essayer d'identifier leurs blessures et se mettre en mouvement pour essayer de les réparer, de les guérir, et ceux qui restent dans une sorte de carcan d'indifférence, à continuer d'avancer dans une vie peut-être un peu plus facile, j'ai envie de dire, des fois, pas se poser de questions, simplifie le quotidien, hein, d'avoir un métier, une routine, quelque part. Toi, non, tu fais le choix de sortir de cette routine, parce que je crois que ta vie est tout sauf une routine, vu qu'il y a du mouvement permanent. Donc j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton mode de vie, parce qu'aujourd'hui, tu as quoi? Tu as 36, 37 ans, tu me disais? Et tu n'as pas, ça aussi, ça interpelle, tu n'as pas de chez toi, et tu continues d'être sur les routes de France, essentiellement, je crois.
Oui, depuis 3 ans, c'est vraiment sur les routes de France. Disons que je n'ai pas de routine. J'ai fait en sorte, les matins, d'avoir une même pratique, comme si ça inscrivait... une continuité, si tu veux. J'ai fait ce choix et en même temps c'était plutôt une nécessité vitale, je pense, après avoir peut-être cheminé, qu'il y a eu aussi danger, donc un enfant, s'il y a danger, parfois de mort, il met en place des stratégies, hein, de fuite pour ne plus jamais être confronté à cela, et je crois qu'il y a eu ça aussi, donc ça m'a donné vraiment le moteur. Comme si j'étais, il y avait vraiment une urgence, quoi. Et en même temps, bah oui, je n'ai pas de chez moi, donc je louais un endroit avec mon frère où mes affaires étaient, et puis les personnes autour de moi étaient peut-être contentes pour certaines que je m'installe enfin. Et en fait, je ne me suis pas installée. J'ai senti qu'il y avait vraiment l'appel, sans pour autant continuer les festivals de cinéma ou d'autres choses que j'avais pu vivre jusqu'à mes 30 ans. J'ai été amenée à continuer. Sans le vouloir réellement, en fait, je me suis jamais dit que j'allais être nomade, mais ça s'est fait. C'était vraiment... Et j'apprends, par contre, à apprécier et à accepter que parfois ça puisse être plus calme, puisqu'on sait que quand enfant, ça a été très intense, peut-être qu'on a libéré aussi, par exemple, un taux de cortisol plus élevé, et on va ensuite faire en sorte que l'existence soit à l'image de ce qui a été vécu enfant. Et moi, j'avais vraiment cette volonté, plus tard, c'est venu de transformer, de ne pas, par exemple, pas continuer à voir des films qui pourraient être à la hauteur de ce que j'avais pu vivre, mais plutôt aller dans des espaces beaucoup plus sécures. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'intensité dans des espaces, par exemple, liés à la danse. Et c'est maintenant, je ne suis pas en danger, tout va bien. Pour autant, c'est quand tout va bien que des choses parfois se libèrent encore. Donc je suis tout à fait touchée par les personnes qui n'ont pas besoin, la nécessité de travailler ou de libérer, puisqu'il y a des lignées déjà beaucoup plus calmes que d'autres. Donc c'est très bien pour les personnes qui parfois ont soit manqué, soit ça a été particulier, puisque ça... Comment dire, c'est tout un tas de personnes qui cohabitent, tout. Mais c'est comme si je comprends, en fait, que tout le monde n'a pas besoin. Et ça, c'est très précieux. Il y a des personnes qui n'ont pas l'élan et le désir de découvrir qui étaient leurs aïeux, admettons. Après, j'ai quand même eu cette impression tôt que l'invitation au chemin d'introspection est, pour moi, essentielle. J'aime beaucoup Christiane Singer, par exemple, qui m'a toujours inspirée. Ou Etil Soum, qui est décédée dans les camps, qui a écrit Une vie bouleversée. Enfin, ses carnets ont été repris. Si on en fait une vie bouleversée, je sens que elle avait cette phrase que je cite parfois, je voudrais être un baume versé sur tant de plaies, et partout où le ciel s'étend, on est chez soi. Et ces deux phrases résonnent beaucoup. J'ai vraiment l'impression qu'on peut se connecter à l'humanité où que l'on soit, et ce mouvement-là me permet d'être connectée en permanence à cette belle humanité.
Partout où le ciel s'étend, on est chez soi. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on a cette envie justement d'avoir un réel chez soi? Donc tu vas vraiment à contre-courant de la marche du monde.
C'est vrai que j'ai eu un moment là de doute. Quand mon père est décédé, je me suis dit que oui, le rapport au matériel était important. Pour autant, je pense que la vie est longue sans doute. Maintenant, j'ai moins l'urgence de vie. J'ai l'impression qu'il y a le temps pour que les choses se déploient. Donc j'ai confiance en le fait que j'ai pu avoir ce chemin-là et que peut-être à un moment, j'apprendrai à vivre avec ce matériel encore davantage. Peut-être autrement, mais j'ai confiance en le fait que tout peut être exploré en temps voulu, qu'il ne faudrait pas forcément forcer. Et là, j'ai été rencontrer les peuples Wendat à Wendake au Canada pour un projet de documentaire sur les femmes et la guérison. Et donc j'ai rencontré une poétesse amérindienne. Et j'ai été très touchée parce que ça m'a redonné confiance, en fait. Là où certaines personnes, à des moments sur le chemin, pouvait me faire douter. Moi, je suis une personne quand même qui prête attention à la parole de l'autre. J'ai pour autant maintenant accès à ce qui se nomme la projection, les peurs de chacun parfois qui nous sont mises, parce que ça peut inquiéter. On pense aussi au futur, à l'après, mettre parfois de l'argent de côté, peut-être pour les vieux jours, etc. Enfin, j'avais pas ce rapport-là, puisque urgence de vie, la vie peut s'arrêter, donc il n'y avait pas cette conscience-là non plus. Donc je sens que oui, c'est aussi une forme de liberté, une liberté relative, parce que ben, certains, même une personne nomade m'a dit « mais c'est aussi courageux, j'ai besoin de beaucoup d'énergie ». Donc j'arrive maintenant à trouver des espaces, par exemple dans la nature ou auprès de certaines personnes, ou seules, de ressources intérieures, parce que c'était difficile d'être en permanence confrontée à l'autre et au monde de l'autre. Voilà, je sens que parfois j'ai aussi l'envie, c'est arrivé cet été, j'ai gardé une maison 10 jours dans le Perche, j'étais seule et c'était un bonheur absolu que je retrouvais après le confinement où j'ai été seule également, je rentrais d'Indonésie. Mon frère m'a laissé son chez-lui, il vivait avec sa copine, et j'étais en pleine nature, et là je n'avais plus du tout envie de retrouver qui que ce soit, de vivre les explorations que j'avais pu jusqu'à présent. J'étais vraiment bien dans ce quotidien où j'ai pu faire tout un tas de choses que je n'avais pas eu le temps de faire jusqu'à présent. Donc ces deux périodes de vie, les 10 jours, ça paraît peut-être peu, mais pour moi c'est beaucoup, parce que je reste rarement 10 jours au même endroit. Parfois c'est 2-3 jours, 5 jours maintenant, mais 10 jours, ça a été très très ressourçant. Et j'étais avec un chat, c'était très simple, le rapport aussi à la marche et à la nature. Ça m'a ressourcée immensément.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc le spirituel, mais le travail de temps en temps. Donc quel est ce travail? Parce qu'effectivement, il y a aussi toujours cette réalité économique qui est bien réelle. Donc j'entends que tu fais plein de choses. Enfin voilà, tu parles de cinéma, donc tu es réalisatrice aussi. Voilà, parle-moi du chapitre travail.
Alors je ne suis pas réalisatrice, mais là ça va être un projet. Une fois, je vais réaliser ce documentaire. Enfin, j'ai commencé à filmer des femmes. Le travail, eh bien ça. Pendant longtemps, donc j'ai animé un ciné-club. Depuis 4 ans, je fais des voix off. Donc les voix off, par exemple un livre audio, parler de un audio guide pour le domaine du Rayol, des films institutionnels. Donc voilà, ça c'est le travail autour de la voix qui me permet d'avoir des revenus qui ne sont pas réguliers d'ailleurs. Et je vis comme si j'avais de l'argent. Pour être honnête, je n'en ai jamais. En fait, c'est comme si, pour donner un exemple très concret, là, j'ai fait une pub pour la marque La Rosée, je t'en parlais un petit peu, et j'ai touché la somme que je n'avais pas, qu'il fallait que je complète pour compléter ce compte. Et donc là, il y a le rapport quand même à l'abondance. Je crois que je suis, que quand je ne vibre pas le manque, mais je ne l'ai pas inventé, j'aime par exemple Dr. Joe Dispenza qui en parle aussi. Quand je suis dans la confiance, j'ai vraiment l'impression que les choses se font. Par exemple, là, nous avons des dettes par rapport à notre papa. Et les sommes, à chaque fois, c'est pas qu'elles apparaissent miraculeusement, mais j'ai eu des histoires parfois très étonnantes avec des billets de 5 euros, 5 fois de suite, trouvés en une semaine à tel et tel endroit, à chaque fois que je vivais quelque chose qui avait attrait au mantra, à la thérapie et aux danses soufies. Donc il y a vraiment des petits miracles, je suis vraiment connectée à ça. Parfois, par ailleurs, quand j'écris pour ce site, ça me permet de vivre. J'écris pour donc Voyage Insolite et pour un site lié au théâtre. Avant j'écrivais pour le cinéma, où j'interroge par exemple Boris Cyrulnik dernièrement pour la revue Source. Donc ça me permet de vivre aussi certaines explorations moyennant tel article, parce que j'aime énormément écrire. Et là vient le temps où je vais peut-être être rémunérée pour tout ce que j'ai mis en place toutes ces années. Là, je cite certaines choses, mais je ne me suis pas lancée au niveau du soin. J'ai fait des choses au niveau artistique. Les projets ont existé. Et là, je sens que je, peut-être qu'il serait temps à un moment donné que je me lance, que je n'attende pas en fait qu'on vienne me chercher pour tel et tel projet. Ça, c'est assez large, hein. Des fois j'ai pu participer à un spectacle à l'Opéra Bastille, mais on m'a sollicité. Parfois ça a été... voilà, je ne sais même plus au niveau du travail rémunéré.
Tu parlais aussi d'avoir confiance à la vie. Et donc tout se met en... Enfin, c'est comme si voilà, sauter sans filet, le filet apparaît. Dans tes textes, tu parles souvent de synchronicité, de forme de magie aussi. Hein. Tu as besoin de rembourser un crédit. Et hop, la somme qui apparaît est exactement la somme dont tu as besoin pour rembourser ton crédit. Donc comment est-ce que tu expliques tout ça, ces synchronicités? Il y avait la phrase de... Je crois que c'est Gounel qui disait que le hasard n'existe pas. C'est Dieu qui se déguise pour voyager incognito. Mais j'entends beaucoup dans les interviews que je fais de gens qui me racontent, qui me parlent de synchronicité des fois complètement incroyable, au-delà du rationnel. Comment ces choses-là sont possibles?
Alors j'ai découvert Jung il y a quelques années et j'ai appris j'ai lu en fait Synchronicité Paracelsia. Je ne connaissais pas la notion, mais je le vivais depuis. J'ai des synchronicités très précises depuis ma vingtaine. Je dirais qu'il y a eu le rapport vraiment à la magie. Moi, on m'avait dit, c'est pas tant, je serais pas magicienne, puisque j'ai pas choisi la voie du spectacle et de créer cette illusion. Plutôt la magie du vivant, la magie de la vie. Et en effet, je suis accompagnée par une ostéopathe que j'aime beaucoup, qui me disait, mais ne doute jamais, t'es guidée. D'ailleurs, on l'est tous. Mais il est vrai qu'il y a des moments, c'est tellement immense, je n'arrive pas à réaliser. Parfois, c'était même trop. Parfois, quand il n'y en a pas du tout, j'ai l'impression que les guides, entre guillemets, si on peut les appeler les guides, ou plus grands que nous, que ça n'existe plus. Et en même temps, c'est là en permanence, quoi. Il y a des choses complètement incroyables que je peux partager à des moments, en effet, sur ma page internet, enfin, sur les réseaux. On me conseille parfois de faire un blog où je m'étais dit pourquoi pas faire un petit essai en les recensant. Pas tant pour... en fait, j'aime les raconter pour donner... foi. C'est vraiment cette notion de partage. Parfois, c'est tellement incroyable, je sens que ça ouvre le regard, ça interpelle aussi, parce que les personnes, parfois, ne sont peut-être pas à même de les voir. Peut-être qu'il y a moins de synchronicité dans la vie d'autres, ils n'ont pas besoin de ça. Moi, ce n'était pas un besoin vital, mais ça a été là, sur le chemin, et je suis très, très touchée, parce que c'est un petit peu le fil aussi. Je dirais que j'ai tout un tas de récits autour de cette question-là, qui me redonne à chaque fois foi. Et quand je relis ou que j'entends à nouveau ou que je me plais à raconter tel événement, je pourrais peut-être en raconter une, pour donner un exemple, je ne sais pas, mais je sens que ça me redonne aussi confiance. Mais c'est comme si ce n'était jamais suffisant non plus, là où d'autres se diraient, bah là ça y est, je peux me rattacher à ça, on n'est pas seul, on est quand même porté par plus grand que nous. Eh bien moi, j'ai quand même besoin à nouveau que ce soit ça se matérialise. Par exemple, j'ai demandé clairement si je dois arrêter de voir telle personne, est-ce que je pourrais trouver un billet par terre, parce que 5 fois de suite donc j'ai trouvé des billets de 5 euros. Et bien le lendemain je trouvais 10 euros par terre. Le message était très clair et je me plais à dire à ma mère, ah mais non, mais ça n'a pas été le jour même, donc c'est peut-être pas le moment pour moi de d'arrêter ce lien. C'était il y a quelques mois. Et quelques temps avant, donc j'ai tourné dans la basilique Saint-Denis pour la danse derviche. Ça s'appelait La Nuit des Reines. Et j'ai demandé si je dois gagner ma vie avec la danse, en partie, est-ce que je pourrais trouver, enfin, montrez-moi de l'argent. Et j'ai trouvé, en sortant de la basilique Saint-Denis après le spectacle, 10 euros par terre à Paris. Après, donc 5 fois où j'avais rien demandé du tout, 5 fois 5 euros quelques temps avant. Donc c'est... Parfois, et là, ça a trait à l'argent, mais souvent, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, je suis pas en train de dire qu'il suffit de croire en le fait qu'on va gagner de l'argent pour que ça arrive. Hein. Je vois toutes les difficultés aussi autour de ça, dans mon chemin. Mais au niveau, le miracle d'être vivant, pour moi, est vraiment là. Je m'extasie à chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible. Il y a plus grand, c'est pas possible autrement, quoi.
Mais quand tu dis on est guidé, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? On est guidé, ça voudrait dire que quelqu'un est là, une force supérieure, des guides de lumière, Dieu ou je ne sais quoi, une énergie qui est là pour nous aider à trouver le chemin.
Je dirais que chacun met le terme qu'il voudrait. Moi je sens que comme si au niveau de l'âme, si on va plus grand que soi, on peut sentir en fait cette force que j'ai ressentie à des moments lors de méditation, lors d'expériences peut-être d'état de conscience modifié, sans jamais avoir pris quoi que ce soit. J'ai jamais bu une goutte d'alcool ni de pris de drogue. Donc ça a été tout le temps de manière autre. J'ai vraiment senti à des moments qu'il y avait plus grand que soi. Et maintenant, je prie à nouveau beaucoup, sans que ce soit rattaché aux religieux. Dans ma famille, on était rattaché au curé d'Ars. Il y avait dans cette lignée le curé d'Ars. Mais moi, donc je suis de confession catholique. Mais en fait, je me rapproche à des moments des bouddhistes. J'avais pris refuge il y a des années, fait le choix de me rapprocher du bouddhisme. Après, là, il y a eu les soufis qui me touchent beaucoup. En fait, je suis pas du tout. Je veux pas dire qu'il y a qu'on le nommerait un petit peu comme on veut. Moi, je parle de guide en ce moment parce que c'est le terme qui est là ces temps. Mais je sens. Qu'à des moments, quand je m'abandonne à la confiance, quand je prie, bah à nouveau, l'énergie d'amour circule. Là où, quand la peur est là et que je suis plutôt dans le mental et les peurs qui reviennent, je ressens moins cela. Et à des moments, de se laisser traverser en faisant appel à plus grand que soi, ben la magie du vivant, je me dis, il y a quand même un plan divin quoi, au-dessus.
Et comment on fait pour s'abandonner à la confiance, comme tu dis? Parce qu'effectivement, on est quand même très vite bloqué par nos peurs. Comment est-ce qu'on arrive à lâcher tout ça et à se dire, bon allez, j'y vais, je fais confiance et je crée ma réalité?
Cette question de confiance, moi j'ai la chance quand même d'être née dans cette... que j'ai la chance d'avoir cette maman qui, à des moments de doute aussi, réinsuffle la foi à chacune autour d'elle. Je pense que ça, c'est une sacrée chance, un beau cadeau. Là où mon père ne croyait pas, elle a vraiment foi, quoi. Parce qu'elle a pu traverser aussi des moments peut-être plus chaotiques, et elle a toujours gardé cette flamme. Et c'est elle qui rappelle à chaque fois cette... la notion de gratitude, quoi, de d'abord remercier pour tout ce qui est et de vraiment faire confiance. Pour moi, le pire est derrière, on ne sait jamais, mais disons que j'ai traversé très tôt et j'ai su être accompagnée aussi, j'ai su faire ce chemin de thérapie surtout. J'ai confiance en le fait qu'on peut à un moment donné, admettons on ne croit pas à plus grand que soi, on peut croire en l'humain. Moi j'ai toujours cru en l'humain profondément, avec des phases là qui étaient... De moments ou de doutes où j'ai été ébranlée aussi, très touchée de découvrir à nouveau que le mal existe. Là où j'avais voulu croire que c'était simplement des enfants blessés et que le mal n'existait pas. En réalité, tout existe dans ce monde. Et simplement le fait de des lieux pareils, par exemple, une connexion par le regard, une caresse sur le visage lors d'un chant, une main tendue avec parfois des inconnus. Moi, je suis très très souvent confrontée à des inconnus. Je suis très bien entourée au niveau familial et avec les amitiés qui me sont très chères. Mais au niveau des inconnus, c'est incroyable. Je suis vraiment, je me sens honorée par toutes ces rencontres, nourrie. Il y a des choses qui me redonnent foi parfois en l'espace d'un trajet, par exemple en covoiturage ou en train. Comme si, à nouveau, la parole dont j'ai besoin est prononcée, ou parfois une parole qui ne serait pas forcément bienveillante. Parfois, c'est avec la confrontation. Mais comme si, d'accepter en fait que... je crois beaucoup qu'on vit certains types d'événements enfants, qu'ensuite la vie nous représente des événements à intensité égale, et ça permet de le libérer un peu plus. Là où avant, je pensais que la vie se répétait inlassablement, malgré toute la beauté de ce qui est inattendu dans la vie que je mène, il y avait des cycles de répétition, qui sont là d'ailleurs. Et c'est comme si là, j'ai compris comment transformer et me laisser traverser par ces instants, et c'est de moins en moins fort. Et ça, pour moi, c'est merveilleux. Donc j'ai foi, que ce soit par le chemin de thérapie, la connexion à d'autres, le chant, les mantras, fait de méditer, d'aller... En fait, chacun trouve... Ce qui fait sens, ça va être complètement différent pour chacun et chacune, mais la certitude qu'à un moment donné, il y a l'appel de l'âme, quoi. Notre âme est plus forte et vibre. À un moment donné, on se reconnecte avec un événement dramatique, avec peut-être pour certaines séparations, avec un burn-out, et à un moment donné, la flamme revient. Ça, et Christiane Singer le disait, éveillez-vous, naissez à vous-même. Elle parle de ça, de naissance à soi. Elle a fait ce chemin-là, elle était vivante, elle transmettait ça au plus grand nombre. Elle avait elle avait à cœur de transmettre la beauté de ce passage sur cette terre avec la conscience que ça s'arrête à un moment donné.
Pour conclure, qu'est-ce que tu aurais envie de partager, force de ton parcours, de tes expériences et du mouvement que tu incarnes? Qu'est-ce que ça t'a appris, tout ça?
Alors, ça m'a appris l'humilité, qu'en fait, si on n'a pas eu, enfant, la capacité à sauver, par exemple, un parent, en fait, on n'était pas là pour sauver. On a l'impression, peut-être parfois, j'ai eu l'impression d'être un super-héros qui serait à même de sauver le monde. En réalité, j'ai appris l'humilité, que j'étais un humain très commun et que j'avais pas du tout ce pouvoir-là, cette magie-là de la vie nous traverse tous, elle est là. Mais pour autant, on ne peut sauver personne d'autre que soi-même. On peut accompagner, on peut... Donc j'ai appris que si une personne, par exemple, devient thérapeute, c'est plus à partir de la croyance qu'elle sauvera, simplement la croyance qu'on peut s'accompagner et être présent à ce qui est avec l'autre pour que la personne soit même de traverser, de mettre parfois du sens, apporter du réconfort. Mais c'est tout à fait différent que de vouloir... Quand un parent nous a dit, par exemple, qu'on était peut-être responsable de son état lié au malheur, ou qu'on voit une grande détresse chez un parent, ou bien qu'on a été confronté à un parent qui serait en soif d'être sauvé par son enfant, il y a tout un tas de cas de figure. En fait, on n'a pas cette, on n'est pas ces super héros là, mais on est quand même, on porte l'immensité du monde. On a tout est possible à qui ose.
Tout est possible, on va rester là-dessus.
Merci.
Merci, Cindy.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
Sentir.
Toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.